Bien, bonsoir à tous. Donc, je suis très, très heureuse d'accueillir aujourd'hui, pour notre deuxième séance, Charles Girard. Que je remercie d'être là. Docteur en philosophie, ancien élève de l'ENS Ulm. Actuellement, Charles Girard est actuellement maître de conférence à l'université Jean Moulin, Lyon 3. Est aussi membre de l'Institut de recherche philosophique de Lyon. Membre du comité de rédaction de la revue Participation, et il dirige la collection L'Avocat du Diable, je crois, aux éditions Hermann. Ses travaux, tout à fait remarquables, portent sur les théories contemporaines de la démocratie, sur les droits fondamentaux, la liberté d'expression, à la croisée de la philosophie normative et des sciences sociales. On lui doit en particulier une excellente anthologie que je vous recommande vivement, des textes classiques désormais sur la démocratie délibérative, paru chez Hermann en 2010 en collaboration avec Alice Le Goff, anthologie qui est assortie d'une très très longue, très riche introduction, donc dont je vous recommande la lecture. Un excellent volume également de textes philosophie des sciences humaines en collaboration avec Florence Hulac, paru chez Vrin en 2015. La codirection aussi avec Éric Blasch d'un numéro thématique de la revue Esprit en octobre 2015, Punir la haine, les discours de haine en démocratie. Enfin, un nombre tout à fait impressionnant d'articles, aussi denses que profonds et clairs, qualités qui ne vont pas toujours de pair, mais que j'apprécie particulièrement chez Charles Girard, en tout cas. Donc, parmi ces articles, je mentionnerai notamment, parmi les plus récents, vous me direz s'il faut en mettre en avant d'autres. Bon, je signale en tout cas la liberté d'expression, état des questions, raison politique 2016, Making Democratic Contestation Possible, Public Deliberation and Mass Media Regulation, dans Policy Studies en 2015, la lutte violente entre les partis de la vérité, conflit des opinions et démocratie représentative chez John Stuart Mill, paru dans la Revue internationale de philosophie en 2015, instituer l'espace de la contestation, la régulation des médias et la compétence du peuple, philosophique 2013, la démocratie doit-elle être délibérative, archives de philosophie 2011, raison publique, rôle sienne et démocratie délibérative, deux conceptions inconciliables de la légitimité politique, point d'interrogation, raison politique 2009. Ainsi qu'un très bel long article, La règle de majorité en démocratie, équité ou vérité, paru dans Raison politique en 2014, sur des thématiques qui, vous le voyez, ne sont pas étrangères à celles dont Charles Girard va nous parler aujourd'hui, et sur lesquelles vous êtes, comme moi, je le pense, donc à présent impatient de l'entendre. Aussi, sans plus attendre, et en le remerciant encore vivement d'avoir accepté mon invitation, je lui laisse à présent la parole. Donc, vérité et égalité, le paradoxe démocratique.
Merci beaucoup à Claudine Tiercelin de cette invitation qui me réjouit beaucoup et de cette introduction fort généreuse. Je suis particulièrement heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour ce séminaire sur le thème connaissance, vérité et démocratie, parce que mes travaux portent principalement sur les philosophies contemporaines de la démocratie et que, parmi les nombreuses prises de conscience douloureuses auxquelles ces travaux m'ont conduit, il y a la conscience assez pénible des lacunes du point de vue épistémologique, des lacunes du point de vue de la théorie de la connaissance, des modèles que la philosophie politique utilise pour penser la démocratie et pour penser plus généralement nos pratiques politiques. Donc je vais intervenir en tant que philosophe politique, pas en tant qu'épistémologue, ce que je ne suis pas, mais avec la conviction qu'un dialogue entre ces domaines ou ces spécialités est indispensable, en tout cas pour le philosophe politique. Alors, la démocratie doit-elle renoncer à la vérité? Et peut-elle renoncer à la vérité sans se perdre elle-même? C'est la question que j'aimerais considérer avec vous ce soir, sous le titre « Égalité et vérité, le paradoxe démocratique ». Et je partirai pour présenter ce paradoxe, pour présenter l'objet de mon propos, d'une typologie assez classique des théories normatives de la démocratie, typologie qui distingue les théories de la démocratie en fonction du type de fondement qu'elle donne à la légitimité politique, fondement procédural ou fondement substantiel. Les conceptions substantielles de la démocratie affirment que la légitimité des décisions politiques dérive, dans ce régime, de la valeur de leur contenu. C'est lorsque les décisions sont bonnes ou justes, ou qu'elles servent l'intérêt général, ou qu'elles promeuvent le bien-être, et ainsi de suite, que les décisions sont légitimes. Ce substantialisme se heurte toutefois à deux problèmes qui sont considérables l'un et l'autre. Le problème du désaccord et le problème de ce qu'on peut appeler la déférence. Problème du désaccord, d'abord. Si le désaccord règne sur l'identification de la bonne décision à prendre, du choix qui serait juste, du choix qui servirait l'intérêt général, alors, dès qu'une décision est contestée, ce qui est presque toujours le cas, il est impossible de se mettre d'accord sur la légitimité du choix finalement opéré. Or, la légitimité d'une décision est généralement ce qui nous permet de la reconnaître comme obligatoire, devant être obéie, même si on la désapprouve. Si, dès qu'il y a désaccord sur la décision, il y a désaccord sur la légitimité, l'idée même de légitimité est inutile, voire redondante. Deuxième problème, celui de la déférence. Si l'on dit que les décisions sont légitimes quand elles sont justes, quand elles sont bonnes, et qu'on veut malgré tout reconnaître que certaines décisions réelles sont légitimes, alors il faut dire que certaines de ces décisions réelles sont vraiment justes ou bonnes. Ce qui veut dire qu'on doit considérer l'opinion des individus qui ne voulaient pas de cette décision, qui la désapprouvent, qui sont minoritaires, on doit considérer leur opinion non seulement comme étant minoritaire, mais comme étant aussi erronée. On leur demande de reconnaître la décision comme légitime, c'est-à-dire qu'en fait, on leur dit qu'ils doivent la trouver juste, même si en fait, ils la trouvent injuste. Ils doivent déférer à l'opinion majoritaire, ils doivent tenir l'opinion majoritaire pour vraie, parce qu'elle est majoritaire. On voit donc que les conceptions substantielles rencontrent des difficultés sérieuses. Pour éviter ces difficultés, un deuxième type de théorie propose une conception procédurale de la légitimité. Elle consiste à dire ceci: la légitimité des décisions dérive, en démocratie, de la valeur des procédures qui produisent les décisions. Et en particulier, c'est une exigence qu'on retrouve systématiquement, du caractère équitable des procédures décisionnelles. Donc une décision est légitime dans cette perspective si elle est produite par une procédure qui traite de façon égale tous les citoyens, quel que soit le contenu de la décision. La limite rencontrée par cette approche, évidemment, est que pour éviter le problème du désaccord, pour éviter le problème de la déférence, elle nous rend totalement indifférents à toute forme de visée substantielle. Pour le dire simplement, la légitimité des décisions n'aurait rien à voir ni avec la justice, ni avec l'intérêt général, ni avec le bien commun, ni avec le bien-être social, ni même seulement avec le maintien de la paix civile, parce que toutes ces entités sont des fins substantielles. La démocratie, alors, se trouve coupée de ce qui la rend, en tant qu'idéal, en tant qu'idéal de régime, attractive. C'est une forme de procéduralisme strict qui est en fait inacceptable pour toutes les théories de la démocratie qui disent que la procédure démocratique doit viser à tel ou tel résultat. C'est en particulier une approche qui n'est pas acceptable pour les théories qui voient dans la démocratie le régime de l'autogouvernement, du gouvernement par et pour le peuple, quel que soit le sens exact qu'on donne à cette expression. Si la démocratie n'est pas que le gouvernement par le peuple, mais aussi pour le peuple, elle est gouvernement pour le bien du peuple, la procédure politique doit viser le bien du peuple, il y a une visée substantielle. Une troisième voie est offerte, ou ouverte, par une forme un peu distincte de procéduralisme, qui maintient l'idée que la légitimité des décisions leur vient des procédures qui les produisent, mais qui exige que ces procédures soient non seulement égalitaires, mais aussi efficaces. Ou du moins, qu'elles tendent à produire, généralement, de bonnes décisions. Donc des décisions qui satisfassent la visée substantielle qu'on s'est donnée. Dans cette perspective, les décisions sont légitimes si elles dérivent de procédures qui traitent les citoyens en égaux, d'une part, et qui produisent, au moins aussi souvent que les autres procédures possibles, de bonnes décisions. Alors cette troisième voie, c'est une position en réalité tout à fait classique et ancienne. Il me semble qu'on peut la dégager très nettement, par exemple, dans les considérations sur le gouvernement représentatif de John Stuart Mill. mais elle a fait l'objet d'un regain d'intérêt ces dernières années, notamment à partir des travaux de David Eslund, qui désigne cette voie comme la voie du procéduralisme épistémique, donc procéduralisme, mais pas seulement par l'égalité, aussi épistémique, dans son ouvrage « L'autorité de la démocratie », traduit en français en 2011. Cette voie, qui me paraît la plus raisonnable, mais aussi la seule empruntable en réalité pour les conceptions de l'autogouvernement, cette voie suscite à son tour une difficulté. Et c'est sur cette difficulté que je veux m'attarder ce soir. Si l'on admet qu'il y a de bonnes et de mauvaises décisions, si l'on pense que les citoyens doivent les départager sur cette base, alors on met nécessairement l'accent sur les compétences épistémiques des individus. Et on rendrait injustifiable le fait de les traiter également, ces individus, alors qu'ils sont épistémiquement inégaux, qu'ils ont des compétences, des niveaux de compétences inégaux. On rendrait injustifiable le fait de donner le même poids à toutes ces opinions, à toutes leurs opinions, qui sont de valeur inégale, dans la prise de décision. Alors c'est une critique extrêmement ancienne et intuitive en réalité de la démocratie, qui a des racines platoniciennes, et dont on trouve maintes formulations à l'époque contemporaine, notamment dans la mouvance réaliste, par exemple chez Joseph Schumpeter. L'idée en fond est la suivante, si vous souhaitez que le pouvoir de gouverner soit exercé pour le bien du peuple, vous ne pouvez pas souhaiter en même temps qu'il soit exercé par le peuple. Car le peuple n'est pas le plus compétent pour savoir ce qui est bon pour lui. Alors évidemment, l'actualité récente des démocraties libérales, du référendum britannique sur le Brexit, jusqu'à l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis d'Amérique, ont redonné une certaine vitalité à cette thèse dans les débats universitaires, mais aussi dans l'espace public, ce qui est sans doute plus inquiétant. Si cette critique est juste, si la critique réaliste schumpeterienne, disons, est juste, la démocratie est bien un régime paradoxal. Elle exclut le souci de la vérité, puisqu'elle donne la même valeur à toutes les opinions. Et en même temps, elle présuppose le souci de la vérité, puisqu'elle considère que les jugements que nous portons sur la valeur de différentes décisions possibles peuvent être vrais ou faux. Ils ont un sens. Le paradoxe démocratique, donc, tiendrait en ceci. La démocratie ne peut pas concilier le souci de l'égalité et le souci de la vérité, or elle ne peut renoncer ni à l'un ni à l'autre, à moins de perdre ce qui la rend attractive. Alors mon intention ce soir est d'essayer de montrer comment est-ce qu'on peut défaire ce paradoxe. La thèse principale que je veux défendre est très simple, elle consiste à dire que l'idéal démocratique n'est pas, en ce sens du moins, paradoxal. Pour le montrer, on doit revenir au raisonnement que j'ai rapidement évoqué, qui dérive du souci de la vérité, c'est le point de départ, la nécessité de renoncer à l'égalité procédurale, au traitement égal de tous les individus dans la prise de décision. J'emprunterai une formulation de ce raisonnement à Hans Kelsen, et j'essaierai de montrer ensuite, successivement, en quoi consistent les trois prémices de ce raisonnement, et ce qu'on peut leur opposer. Ces prémices portent sur l'incompétence au moins relative, sur l'existence d'abord de vérités qui sont pertinentes pour la prise de décision politique, ensuite, deuxièmement, sur l'incompétence au moins relative du peuple, et troisièmement, sur la nécessité de confier le pouvoir de gouverner à ceux qui sont les plus compétents. Alors je vais détailler ces thèses, mais ces prémices, mais j'annonce déjà les thèses que je défendrai sur ces trois points. J'accorderai les deux premières prémices, sous une forme légèrement modifiée pour la seconde. Premièrement, il faut bien supposer qu'existe des vérités dont la décision politique doit se soucier. Deuxièmement, le peuple n'est pas toujours le plus compétent pour les identifier, même s'il peut parfois l'être. Troisièmement, et c'est ce qui permet de résoudre ou de défaire le paradoxe, à mon sens, le faillibilisme qui va avec le souci de la vérité justifie sans paradoxe aucun que le pouvoir de gouverner soit bien confié à tous, et pas seulement aux plus sages ou aux plus experts. Alors partons donc d'une formulation, au premier temps de cet exposé, du raisonnement. L'idée que la démocratie suppose de renoncer à la vérité trouve une formulation particulièrement puissante et influente dans l'ouvrage de Hans Kelsen, « La démocratie, sa nature, sa valeur ». Ce sont les toutes dernières pages de l'ouvrage dans lesquelles Kelsen suggère que ce passage de l'Évangile selon saint Jean, qui narre la confrontation entre Jésus et Pilate, exprime, en un tragique symbole, dit-il, la relation entre démocratie et relativisme. Je cite, une fois n'est pas coutume, l'Évangile selon saint Jean. Pilate lui dit, s'adressant à Jésus, « Donc tu es roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je ne suis né et je ne suis venu dans le monde que pour rendre témoignage de la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» Et sur ce mot, il sortit de nouveau et alla vers les Juifs. Et il leur dit, « Je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais c'est pour vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la Pâque. Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Ils vociférèrent de nouveau, disant, « Pas lui, mais Barabbas. » Or, Barabbas était un brigand. Selon quelle scène, Pilate, parce que romain, représente une civilisation qui est devenue sceptique, qui doute de toute vérité et qui, en conséquence, est habituée à penser démocratiquement, selon la loi du plus grand nombre. Lorsque Jésus, qui est accusé de se donner pour le roi des Juifs, qui réclame pour lui l'autorité de la vérité, lui est présenté, Pilate renonce à chercher par lui-même la vérité, il renonce à juger par lui-même, alors même qu'il ne voit pas de motif de condamnation. Il abandonne la décision à la foule et provoque un plébiscite. Jésus, de son côté, parce qu'entièrement certain d'être le Fils de Dieu, peut revendiquer cette autorité sur les Juifs et se dire leur roi. Le croyant, reconnaît Kelsen, pourra voir, dans ce passage des Évangiles, le meilleur des arguments contre la démocratie. Elle sacrifie la vérité, car elle ne lui reconnaît aucune autorité particulière, préférant confier le pouvoir de décider à tous de façon égale, c'est-à-dire au plus grand nombre. Mais cette objection ne porte, et c'est ce que veut dire Kelsen en réalité, même si on trouve parfois des lectures contraires, cette objection ne porte bien sûr que si l'on peut savoir avec certitude qui dit le vrai. Refuser la démocratie parce qu'elle menacerait la vérité suppose que l'on soit aussi sûr de savoir ce qu'est la vérité que peut l'être ou pourrait l'être le Fils de Dieu. Bien, donc cette tragédie de la démocratie, lue par Kelsen, se joue dans l'opposition entre deux figures, le sceptique et le fanatique, instance du dogmatisme. Le sceptique renonce ou a renoncé à atteindre des vérités absolues, donc il peut être relativiste et il peut accepter qu'on traite toutes les opinions comme ayant une valeur égale. Le fanatique, à l'inverse, plus généralement le dogmatique, a la certitude qu'il a la vérité absolue, donc il peut refuser toute valeur aux autres opinions. Seul le sceptique, c'est la thèse de Kelsen, peut être démocrate, reconnaître l'autorité du peuple, confier le pouvoir de décider à tous à égalité. La cause de la démocratie, écrit Kelsen, apparaîtra désespérée si l'on part de l'idée que l'homme peut accéder à des vérités et saisir des valeurs absolues. On ne saurait, effectivement, c'est du moins la logique de l'argument, si l'on admet que de telles vérités ou valeurs sont accessibles, éviter de confier l'autorité politique à ceux qui les connaissent le mieux, à ceux qui sont le mieux susceptibles de les atteindre. Si certains savent ce qui est vrai et bon, comment leur refuser le droit de prendre des décisions pour tous ? Il suffit même, dit Kelsen, de douter que le peuple soit le plus compétent. Thèse fort peu plausible. Mais le doute suffit. Il suffit de douter que la connaissance du vrai et du bien ne soit pas accessible de manière privilégiée au peuple, qu'elle soit plus accessible à des sages, des experts, des savants, en son sein, pour que l'autorité de la démocratie soit sapée. L'idée démocratique suppose le relativisme. Alors cette position kelsenienne et son fondement sceptique me paraissent très peu satisfaisants. Pour une raison simple, si elle rend possible le choix de la démocratie, elle ne le justifie pas, et elle interdit même de le justifier. Le relativisme auquel conduit, selon Kelsen, ce scepticisme, d'après lequel des jugements de valeurs opposées, dit-il, ne sont exclus ni moralement ni logiquement, ce relativisme peut être invoqué, il peut l'être, c'est ce que fait Kelsen d'ailleurs, pour proposer qu'on protège les opinions minoritaires contre la majorité, parce que la majorité ne peut pas réclamer pour elle la vérité. Mais ce même relativisme prive ce choix, et plus généralement le choix de la démocratie, de tout fondement. Si toutes les opinions se valent, du point de vue de la vérité, on peut certes les soumettre à la règle majoritaire. On peut certes laisser les voix minoritaires s'exprimer. On peut certes protéger la minorité, par des droits individuels par exemple, contre les abus de la majorité, toute chose que Kelsen propose. Tout cela, le sceptique peut l'admettre, mais il ne peut pas le justifier face à celui qui ne l'admet pas déjà. Il faudrait pour cela faire appel à des vérités et à des valeurs, telles la liberté pour Kelsen, à propos desquelles, par hypothèse, toute certitude fait défaut. Alors ce relativisme kelsénien ne nie pas l'existence de tout ordre moral. Il nie qu'on puisse reconnaître un ordre moral particulier comme étant le seul valide. Et il insiste beaucoup dans un autre texte, traduit dans un numéro de Raison politique en 2014, qui s'appelle « Fondation de la démocratie », qui recoupe en particulier celui de l'ouvrage que j'ai cité. Il insiste dans un autre texte sur le fait que, oui, la démocratie a de la valeur. Elle a de la valeur pour le démocrate. Le démocrate, dans la mesure, écrit Kelsen, où rien ne peut être plus sensé pour lui que de se battre pour la démocratie contre l'autocratie, le démocrate n'a pas, je cite encore, la plus petite raison d'accepter l'autocratie comme fait inévitable. Ce que Kelsen n'ajoute pas, mais qui s'impose, c'est qu'il y a un corollaire, le fanatique n'a pas la plus petite raison d'accepter la démocratie, comme inévitable ou même comme souhaitable ou désirable. Le démocrate, s'il est cohérent, doit admettre que la justification de la démocratie ne peut, et cette fois je cite Kelsen, être prouvée par le moyen d'une connaissance scientifique, rationnelle, qui soit absolue, c'est-à-dire excluant la possibilité d'un jugement de valeur contraire. Alors, comme je l'ai indiqué en introduction, le problème pointé par Kelsen ne constitue pas, pour lui encore, un paradoxe, car Kelsen pense qu'il faut se contenter d'exigences procédurales, même s'il défend par ailleurs tout un ensemble de droits et de libertés individuelles. Cette difficulté, cette incapacité à se justifier, se transforme en véritable paradoxe pour ces autres théories de la démocratie, comme les théories de l'autogouvernement, qui maintiennent une visée substantielle, qui disent que la procédure démocratique doit être égalitaire, mais elle doit aussi viser, par exemple, le bien du peuple. La défense de la démocratie pour ces théories n'est pas seulement arbitraire, elle est incohérente. Alors comment défaire ce paradoxe ? Le raisonnement dont il faut partir, c'est celui que Kelsen cherche à éviter en mettant en avant le relativisme. S'il est des vérités accessibles avec certitude, alors il faut confier le pouvoir à ceux qui les connaissent le mieux, ou qui sont les plus aptes à les connaître, car ils seront les mieux aptes à gouverner. C'est un raisonnement familier que nous connaissons depuis Platon. Socrate jugeait déjà dans la République que c'est seulement à ceux qui ont, je cite, « la connaissance qui sert à délibérer sur la cité tout entière, pour déterminer la façon d'agir qu'il faudrait adopter, qu'il faut confier la direction de la cité ». On peut distinguer trois prémices à ce raisonnement, que j'ai mentionné brièvement tout à l'heure. Première prémisse, il est des vérités politiques dont la prise de décision doit se soucier, qui doivent guider la prise de décision. Deuxième prémisse, le peuple n'est pas l'instance la plus compétente pour identifier ou connaître ces vérités. Troisième prémisse, le pouvoir de décider, le pouvoir de gouverner, doit être confié aux plus compétents pour cela. Alors si on admet ces prémisses, il faut rejeter la démocratie au profit du gouvernement des savants, des experts, de ce que David Estlund nomme l'épistocratie. Pour rejeter au contraire l'épistocratie, défendre la démocratie, il faut réfuter l'une de ces trois prémisses. Kelsen réfute la première, c'est son relativisme, mais si l'on peut réfuter la deuxième ou, comme je le proposerais, la troisième, on peut défendre la démocratie sans tomber dans le relativisme, qui pose les problèmes que je viens de mentionner. Alors, on pourrait vouloir contourner entièrement cette difficulté, nier qu'il y a là paradoxe, et simplement suggérer qu'on a deux visées, certes légèrement en tension, mais au fond complémentaires, et entre lesquelles il faut trouver le juste équilibre. Selon cette objection, on pourrait dire que la démocratie est exigeante parce qu'elle nous demande de trouver des compromis entre égalité et vérité. Le problème, outre que cette idée consiste à traiter des visées constitutives de l'idéal démocratique comme simplement comme des exigences relatives avec lesquelles on peut transiger, mais au-delà de ça, le problème, c'est qu'il n'y a aucun critère pour juger de ce qui constituerait un bon compromis entre égalité et vérité. Tout compromis paraît à vrai dire arbitraire, et il est difficile de savoir quel compromis nous fait sortir de la démocratie sacrifiant par trop l'égalité ou par trop la vérité, la poursuite de la vérité, et quel compromis nous permet de rester en démocratie. Sans hiérarchisation claire ou sans articulation claire de ces deux visées, qui permettrait, disons, qui conduirait, disons, soit à sacrifier, soit à réconcilier Platon et Kelsen, la poursuite simultanée de ces deux objectifs ne nous donne aucune clé, aucun critère pour juger des arrangements institutionnels proposés. On peut prendre un exemple pour illustrer ce point. La proposition faite par John Stuart Mill du vote plural. C'est un dispositif que Mill avance dans son effort pour concevoir ce qu'il appelle une forme idéalement la meilleure de gouvernement. Le problème qui se pose à cette forme idéalement la meilleure de gouvernement, la démocratie représentative, c'est de concilier la participation de tout le peuple, d'un côté, et la valorisation de la compétence, d'une partie du peuple donc, de l'autre. Le vote plural consiste à donner plusieurs voix aux votants jugés les plus compétents, alors que les autres n'en ont qu'une. Il vise donc à accroître dans la prise de décision l'influence des avis les plus sages, mais sans exclure personne de la participation électorale, chacun conservant au moins un vote. Il est dans l'intérêt de tous, argumente Mill, y compris des moins compétents, des moins sages, des moins experts, il est dans l'intérêt de tous que soit accru le poids des opinions les plus avisées. Lorsque plusieurs personnes ont un intérêt commun, l'opinion et le jugement de la personne dont la moralité et l'intelligence sont les plus grands, écrit-il, l'opinion et le jugement de la personne dont la moralité et l'intelligence sont les plus grandes, valent plus que ceux d'une personne inférieure. Et si les institutions d'un pays affirment virtuellement qu'elles ont la même valeur, une telle affirmation ne renvoie à aucune réalité. Toute la difficulté, bien sûr, est alors de déterminer qui est le plus compétent. J'y reviendrai tout à l'heure. Mill juge, prudemment, que le critère de la propriété, qui historiquement a été souvent utilisé dans ce but, pensons au suffrage censitaire, Mill pense que le critère de la propriété est inadapté. Même le membre le plus pauvre de la communauté, dit-il, devrait pouvoir revendiquer les privilèges de l'intelligence. Mais il est aussi prompt, à voir dans le niveau d'éducation ou dans le niveau d'expérience professionnelle un indicateur suffisamment fiable de la sagesse politique. Les diplômés des universités les plus prestigieuses, les auditeurs du Collège de France peut-être, les banquiers, les contremaîtres, les travailleurs qualifiés, pourraient disposer d'un plus grand nombre de voix que les non-diplômés, les ouvriers, les marchands ou les travailleurs non qualifiés. La question qui se pose à nous, évidemment, est de savoir en quoi cet arrangement peut encore être présenté, comme Mill le pensait, comme étant démocratique. L'idée de Mill est la suivante, la justification est la suivante. On maintient certes l'exigence d'égalité des citoyens, mais cette égalité des citoyens n'a pas à se traduire en une égalité des chances d'influencer la décision collective. Pourquoi ? Parce que, je cite, « affirmer que toute personne doit avoir voix au chapitre n'équivaut pas à affirmer que toutes les voix doivent se valoir. » Alors, ce compromis, de toute évidence, heurte nos intuitions contemporaines sur ce qu'implique l'égalité politique. Mais plus fondamentalement, la difficulté est que la justification offerte par Mill apparaît entièrement arbitraire. Pourquoi maintenir l'universalité du suffrage si des différences importantes d'influence sont justifiées par des différences de compétences ? Pourquoi, à l'inverse, tolérer la moindre différence dans le nombre de voix, donc dans l'influence exercée, s'il est inacceptable de priver quiconque du suffrage ? La logique qui conduit à vouloir maintenir le suffrage universel est la suivante. Chacun doit pouvoir défendre son intérêt dans la prise de décision, donc par l'intermédiaire d'une voix qui lui permet d'influencer la décision collective. La logique du vote plural est exactement inverse. Elle n'est pas distincte, elle est inverse. Pourquoi donner plusieurs voix à un individu ? Pour minimiser l'influence exercée par ceux qui sont les moins compétents. Les deux visées poursuivies amènent à vouloir augmenter et diminuer simultanément l'influence de certains individus dans le processus de prise de décision. On ne peut donc pas contourner, il me semble, le paradoxe démocratique, ni le nier. Il est logé au cœur de l'idée de gouvernement, du moins si les trois prémices que j'ai identifiées sont valides. Première prémisse. Est-il des vérités que la décision politique doit prendre en compte ? Est-il des vérités politiques ? Alors, parler de vérité à propos de la décision politique peut surprendre, bien évidemment, puisqu'une décision n'est pas une proposition assertive. Elle n'affirme pas la vérité d'un état de fait. Une décision est un acte de volonté. Elle produit une intention d'agir, qui peut être efficace ou non. Elle n'est ni vraie ni fausse. Néanmoins, nous portons des jugements, et ces jugements guident souvent notre décision, nous portons des jugements sur la valeur des choix qui nous sont offerts, des actions possibles. Les propositions qui portent sur la valeur respective, relative, de différentes options envisagées, sont bien des propositions assertives. Des propositions comme la sortie du nucléaire est aujourd'hui préférable à son développement, ou l'autorisation de l'interruption volontaire de grossesse est préférable dans cette situation et dans notre société à son interdiction, sont susceptibles de vérité et de fausseté. C'est en tout cas ce que présuppose très clairement la pratique politique en démocratie et ailleurs. C'est parce que certaines affirmations de ce type sont tenues pour vraies et d'autres pour fausses qu'il y a, pour les acteurs, pour les agents, un sens à s'engager, mais aussi à défendre certains points de vue politiques et à en combattre d'autres. En fait, toute interprétation de l'idée démocratique qui refuse la possibilité de jugement de valeur de ce type qui soit correct, ne pourrait absolument pas être endossée réflexivement par les acteurs eux-mêmes. Ça ne rend pas compte du sens qu'ils peuvent donner à leur pratique. Alors bien sûr, les vérités dont les propositions politiques de ce type sont susceptibles, la vérité, pardon, dont les propositions politiques de ce type sont susceptibles, est en un sens complexe. Parce qu'un jugement politique, donc un jugement sur les mérites possibles de différentes actions, de différents candidats, de différentes politiques possibles, un jugement de ce type met en jeu des éléments factuels. Il faut connaître l'état actuel du monde. Des éléments prudentiels. Il faut anticiper les effets possibles et contingents de nos actions dans un futur incertain. Et des éléments normatifs. Il faut être clair sur les fins qui sont désirables ou obligatoires pour l'action. L'accès, donc, à des vérités politiques de ce type est fort différent de l'accès à des vérités seulement factuelles, ou à des vérités évidemment logiques, qui ne dépendent pas de considérations prudentielles ou de considérations normatives. La vérité du jugement politique ne peut pas être établie de manière définitive par la voie expérimentale ou par la voie démonstrative. La vérité des jugements politiques ne se prête ni à la falsification ni à la preuve. Ces jugements s'appuient néanmoins sur la pesée de raison d'agir, de raison d'opter ou non pour tel ou tel choix, pesée qui constitue la délibération. Cela ne signifie pas que toutes les décisions, et donc toutes les propositions portant sur la valeur des décisions, se valent, parce que la délibération pratique est bien un effort pour arrêter la bonne décision, ou la meilleure décision possible. C'est ce que suggérait déjà Aristote. S'il est manifeste que toute recherche n'est pas une délibération, par exemple l'investigation en mathématiques, par contre, toute délibération est bien une recherche. Alors, on pourra choisir, comme le font un certain nombre d'auteurs, d'éviter la terminologie de la vérité pour parler de validité, de justesse, de justifiabilité, et ces précautions terminologiques renvoient souvent à des distinctions ou à des tentatives d'élaboration de distinctions qui sont pertinentes. Mais elles ne doivent pas dissimuler l'essentiel. L'essentiel, c'est ceci. Si l'on admet que certaines des décisions proposées sont meilleures que d'autres, dans le contexte où il faut choisir, si l'on admet, par exemple, qu'à propos de l'ouverture du mariage aux couples homosexuels ou à propos du projet de traité constitutionnel pour l'Union européenne, certes, ou sur d'autres questions, certains ont pu avoir raison et d'autres ont pu avoir tort, alors il faut admettre que les décisions politiques ont trait à la vérité. Alors le présupposé le plus disputé, bien sûr, c'est celui qui porte sur l'existence de vérités normatives, ce qui introduit une forme de réalisme moral, l'idée qu'il existe des faits susceptibles de rendre nos propositions normatives vraies ou fausses. Notons simplement qu'un jugement de valeur sur les mérites relatifs de différentes décisions ne peut être formulé qu'en référence à des principes ou à des valeurs normatives. Sans cela, aucune fin ne peut être choisie pour orienter la prise de décision. Il ne saurait en être autrement, puisqu'il s'agit d'évaluer non pas ce qui est, mais ce qui est meilleur ou pire. Et toutes les conceptions de la démocratie qui ne se contentent pas d'exiger l'égalité procédurale, en réalité, avancent de tels principes ou valeurs. C'est le cas, bien évidemment, pour les conceptions qui nous disent que le but de la politique démocratique, c'est le bien commun, ou c'est l'intérêt général, ou c'est la justice. Mais en réalité, c'est le cas également pour ces théories plus modestes de la démocratie, qui pensent que ce qu'on peut viser dans la politique démocratique, c'est des compromis qui ne soient pas trop inéquitables entre des intérêts particuliers, ou que c'est la promotion du bien-être du plus grand nombre, ou même simplement que c'est le maintien de compromis qui permettent la paix civile, le fait que l'affrontement entre groupes d'intérêts ne dégénère pas en un conflit armé. Dire donc qu'il est des vérités normatives pertinentes pour l'action politique, c'est simplement dire ceci: il est parfois vrai que certaines décisions sont supérieures aux autres, ou si l'on veut, mais cela revient au même, que certaines sont pires que d'autres. Ce qui n'implique pas, bien sûr, que pour tout choix, il y ait une décision qui s'impose comme la meilleure. Les décisions peuvent tout à fait être équivalentes du point de vue considéré. Le réalisme de Kelsen nie précisément ce point-là, mais notons qu'il ne propose pas de justification pour ce réalisme, qui ne découle pas nécessairement d'ailleurs de son point de départ sceptique. S'il établit le relativisme dans l'argument que j'ai reconstitué, Kelsen le fait simplement en affirmant que c'est la précondition de la démocratie. Il me semble donc, au moins pour le cadre de ce raisonnement, qu'il suffit ici de montrer que ce choix n'est pas nécessaire. Dernière remarque sur ce point, on ne comprend pas en réalité le choix que font les démocraties réelles, le choix qu'ont fait les sociétés démocratiques contemporaines, de privilégier certaines procédures plutôt que d'autres, si l'on met de côté le souci de la vérité. Les procédures privilégiées dans les démocraties que nous connaissons ne peuvent pas être justifiées simplement en ce qu'elles seraient équitables ou en ce qu'elles traiteraient également les citoyens, parce qu'il y en a d'autres qui sont plus équitables. Si ces régimes encouragent, dans divers contextes, la délibération collective, avant le vote, parfois à la place du vote, ce n'est pas par souci d'équité, car la délibération n'est pas une procédure particulièrement équitable. Elle donne l'avantage au meilleur rhéteur, de la même manière que le lancer de fléchette ou le concours de fléchette donne l'avantage au meilleur lanceur de fléchette ou au plus habile. C'est plutôt parce que la délibération permet un effort d'argumentation et de confrontation raisonnée des raisons. De la même manière, de manière peut-être moins intuitive, si ces régimes privilégient le vote à la majorité, plutôt par exemple que le tirage au sort d'une option, ou ce qu'on appelle le tirage au sort pondéré par le vote, tout le monde vote et on tire un seul bulletin de l'urne qui détermine le résultat, si ces régimes privilégient le vote à la majorité, ce n'est pas parce qu'ils seraient plus égalitaires que ces autres procédures, ils l'est moins. Dans le vote à la majorité, l'individu qui est minoritaire a beaucoup moins de chances de déterminer le résultat de l'agrégation des voix que l'individu qui est majoritaire. Un phénomène qui est évidemment amplifié en cas d'existence de minorité permanente. Si donc le vote a des avantages à faire valoir vis-à-vis du tirage au sort ou du tirage au sort pondéré par le vote, c'est parce qu'il maintient un lien entre le choix final et le jugement du plus grand nombre, ce qui est bien une considération épistémique. Il me semble qu'il y a là une raison supplémentaire pour détourner le titre d'un article de Pascal Angèle, pour affirmer que la vérité survit à la démocratie et même à la politique. La question qui se pose à nous est de savoir si la démocratie survit, pour sa part, à la vérité. Deuxième prémisse, deuxième moment de ce raisonnement, la compétence du peuple. Le peuple est-il l'instance la plus compétente pour identifier les vérités pertinentes en politique, c'est-à-dire tout simplement pour prendre les bonnes décisions ? Cette exigence est relative. Il s'agit de comparer la compétence du peuple à la compétence du groupe des plus compétents, des experts ou des sages en son sein. Elle peut paraître, à vrai dire, cette exigence relative, impossible à satisfaire pour des raisons logiques. Dans tout groupe, en effet, le sous-groupe des plus compétents paraît devoir toujours être plus compétent que le groupe dans son ensemble, par définition. Si les citoyens ont des compétences politiques inégales, et ils en ont forcément s'il y a des opinions vraies et des opinions fausses, Si les citoyens ont des compétences politiques inégales, la compétence moyenne au sein du groupe des experts sera plus haute, par définition, que la compétence moyenne au sein du peuple en général. Si le peuple contient des experts du jugement politique, donc, il est moins expert qu'ils ne le sont. Alors, ce raisonnement est intuitivement convaincant, mais en réalité douteux. On peut écarter la thèse de l'infériorité épistémique nécessaire du peuple, en affirmant simplement, ou en rappelant simplement, que la compétence d'un groupe ne peut pas être ramenée à la moyenne des compétences individuelles, ou même à la moyenne des compétences individuelles. Un groupe peut, en tant que groupe, présenter des propriétés, et notamment des qualités épistémiques, qui sont supérieures à celle de la moyenne de ses membres, mais aussi à celle des meilleurs d'entre eux. C'est une issue qui est suggérée dans un texte célèbre, maintes fois commenté, en particulier dans les débats récents, d'Aristote, dans lequel Aristote écrit qu'il y a là, il paraît hésiter, je cite, « une solution qui fait difficulté, mais comporte sans doute aussi du vrai ». Une solution, à ses yeux, pour concilier, d'un côté, la juste répartition du pouvoir, qui demande que l'on donne le pouvoir à ceux qui sont les plus vertueux politiquement, donc les plus habiles, les plus compétents, d'un côté, juste répartition du pouvoir d'un côté, et de l'autre côté, la stabilité de la cité, qui suppose qu'on donne aussi le pouvoir au peuple, qu'on ne le prive pas de l'accès au pouvoir, et donc aux honneurs publics qui y sont associés. Cette solution, incertaine, mais qui contient sans doute une part de vrai, consiste en ceci, dit Aristote, que de nombreux individus, dont aucun n'est un homme vertueux, quand ils s'assemblent, soient meilleurs que les plus vertueux, non pas individuellement, mais collectivement. Donc même si chacun des hommes qui appartient au groupe des meilleurs l'emporte individuellement sur chacun des autres hommes, la masse peut être, dans son ensemble, plus compétente, elle peut l'emporter sur le groupe des plus compétents. Que ce soit le cas, pour tout peuple et pour toute masse, ce n'est pas évident, écrit Aristote. Et dans certains cas, par Zeus, c'est sans doute impossible. Ce passage est moins cité par les amis de la compétence épistémique du peuple. Et dans certains cas, par Zeus, c'est sans doute impossible, car le même argument s'appliquerait aussi aux bêtes sauvages. Et en vérité, en quoi certaines foules diffèrent-elles, pour ainsi dire, des bêtes sauvages ? Cela ne peut donc être vrai, si cela peut être vrai, que de certaines formes de masse. Lesquelles ? Il semble qu'il y a deux voies principales. La compétence supérieure du peuple, dont la quête occupe de très nombreuses théories contemporaines, en philosophie et en sciences sociales, la compétence supérieure du peuple est concevable de deux manières distinctes. Soit par l'addition des compétences individuelles, soit par l'émergence d'une compétence collective qui ne se réduise pas à la somme des compétences individuelles. Ce sont les voies de l'agrégation, d'une part, notamment du vote, mais pas seulement, et de la délibération, d'autre part. Je serai rapide sur ces deux voies, car je crois que Bernard Manin, la semaine dernière, a assez largement, et beaucoup plus en détail que je ne le ferai, évoqué les mécanismes auxquels je vais faire allusion. Donc je me contenterai de quelques remarques, mais nous pouvons y revenir, bien sûr, dans la discussion. L'agrégation des jugements individuels, tout d'abord, peut-elle produire un jugement collectif plus compétent, c'est-à-dire ayant plus de chances d'être correct, tout simplement, que la moyenne des jugements individuels ou que les meilleurs d'entre eux ? Le grand nombre peut-il compenser le défaut de compétences individuelles ? Alors, de nombreux mécanismes sont étudiés et invoqués pour nourrir les espoirs du démocrate à ce sujet, peut-être aussi parfois pour flatter les attentes du public, et nul n'a été plus exploité ou étudié récemment que le théorème du jury de Condorcet, très longtemps oublié, mais ayant lui aussi fait l'objet d'un regain d'intérêt très important, et qui va faire prochainement l'objet d'un ouvrage intitulé « La démocratie épistémique », enfin « Epistemic Democracy », par Bob Godin et Kai Speakerman, qui partent du théorème du jury de Condorcet pour proposer une vision générale de la démocratie épistémique. Ce théorème montre ceci. Si un groupe doit choisir entre deux options, la bonne et la mauvaise, si chaque membre du groupe vote indépendamment des autres, et si chacun, ou la moyenne selon une version révisée, si la moyenne des individus, si en moyenne les individus ont plus de chances de faire le bon choix que le mauvais choix, probabilité supérieure à 1,5, 0,5, alors la majorité des votants a aussi plus de chances de faire le bon choix que le mauvais choix. Et surtout, c'est le résultat le plus remarquable, la probabilité que la majorité fasse le bon choix augmente très rapidement avec la taille du groupe, jusqu'à converger vers 1 lorsque la taille du groupe tend vers l'infini. Alors ce théorème, qui est une application de la loi des grands nombres, a fait l'objet de très nombreuses extensions visant à en assouplir les conditions pour les rendre plus réalistes. Mais en vérité, les implications de ces conditions, surtout de la condition d'indépendance, sont encore loin d'être claires pour une situation de vote réelle. Je laisse cette difficulté de côté pour me concentrer plutôt sur la condition distincte de compétence. Elle n'est pas dépourvue de plausibilité, au moins pour certaines questions. Après tout, avoir plus d'une chance sur deux de faire le bon choix, c'est avoir un tout petit peu plus de chances de faire le bon choix que si on tire à pile ou face. Elle a néanmoins un revers, pour le moins inquiétant. Si la compétence individuelle moyenne est ne serait-ce que légèrement inférieure à 0,5, légèrement inférieure au hasard, si en moyenne on a un tout petit peu plus de chances de faire le mauvais choix que le bon choix, alors c'est la probabilité que la majorité fasse le mauvais choix qui augmente très rapidement avec la taille du groupe. Un tel mécanisme, de toute évidence, et même si le contraire est parfois affirmé, ne permet en rien d'affirmer de manière nécessaire et systématique la supériorité épistémique du peuple. Elle montre les effets liés à la taille, qui doivent être pris en compte, et elles attirent surtout l'attention angoissée du démocrate sur la question de la compétence individuelle. Aucun autre mécanisme d'agrégation, tel que le miracle de l'agrégation, dont je crois Bernard Malin a parlé la semaine dernière et que je n'évoquerai pas, ne résout ce problème. Quelles que soient les considérations mathématiques mobilisables pour défendre les vertus épistémiques de l'agrégation, elles doivent postuler une compétence individuelle moyenne suffisante, qui, du fait de la complexité des questions politiques, peut toujours faire défaut. La compétence supérieure du peuple ne peut donc pas seulement reposer sur les vertus de l'agrégation, elle présuppose un contexte éducatif, social, culturel, propice à cette compétence. Et elle exige en outre un contexte qui soit un contexte de prise de décision, un contexte décisionnel, qui soit propice à des choix mûrement délibérés. C'est la deuxième voie qui insiste cette fois sur les vertus épistémiques de la délibération. Même question que tout à l'heure, la délibération de tous les citoyens, la délibération du peuple, peut-elle conduire à un jugement collectif plus compétent, ayant plus de chances d'être correct, que les jugements des citoyens les plus compétents ? La délibération du grand nombre compense-t-elle le manque de compétences individuelles ? Alors c'est sans doute le sens, selon l'interprétation la plus possible, de la thèse d'Aristote, qui invoque cette solution possible pour justifier qu'on fasse participer la masse au pouvoir délibératif et judiciaire. Le mélange des plus aptes à gouverner, des plus vertueux politiquement, et de la masse peut dans ce cas, suggère Aristote, dans un contexte délibératif, produire une dilution de la vertu politique du petit nombre qui en multiplie les effets. Lorsqu'ils sont tous réunis, les membres de la masse possèdent une juste perception des choses, écrit Aristote. Mélangés au meilleur, ils sont utiles à la cité comme un aliment pur, comme un aliment impur, c'est la masse, mélangé à un aliment pur, les vertueux, peut rendre le tout plus profitable qu'une trop petite quantité d'aliments purs. Éloge de la dilution. Alors, comment cette dilution peut-elle être bénéfique ? Aristote ne l'explique pas, en vérité, il ne fait que nous offrir une série d'analogies. Elles ne sont pas inutiles, et on peut, à partir de ces analogies, de manière assez cohérente, en termes de mise en ordre, essayer de distinguer les principales vertus épistémiques attribuées à la délibération. La confrontation collective des raisons d'agir permet d'abord, Aristote emprunte cette idée au banquet, une mise en commun des ressources, par laquelle les repas collectifs sont meilleurs que ceux organisés par une seule personne. Elle permet ensuite, et Aristote prend l'exemple d'un homme unique aux multiples pieds, aux multiples mains, aux multiples organes, elle peut ensuite, cette délibération, permettre une combinaison des capacités éthiques et intellectuelles. Elle peut, troisièmement, Aristote évoque cette fois la critique collective d'une œuvre d'art, elle peut troisièmement permettre une division du travail cognitif, par laquelle, dit Aristote, les uns jugent une partie, les autres une autre, et tous jugent le tout. Et enfin, quatrième vertu possible de la délibération, Et Aristote évoque cette fois les portraits composés à partir de plusieurs modèles dont on sélectionne les meilleurs traits. La délibération peut permettre la sélection des meilleurs traits. De fait, divers travaux, théoriques et empiriques, en sociologie, en psychologie, en économie, effectués ces 30 dernières années, offrent des arguments non négligeables pour attribuer à la délibération des effets vertueux de ce type. La pesée commune des raisons permet la mise en commun des ressources informationnelles. L'échange de données, de témoignages, d'opinions, de récits qu'elle permet fait circuler l'information et enrichit le fond d'information de chacun. Deuxièmement, elle permet la combinaison des capacités rationnelles en ce que l'argumentation et la contre-argumentation peuvent faire surgir de nouvelles raisons, de nouveaux buts, de nouvelles options qui n'auraient pas été identifiées par les individus individuellement. Elle peut permettre une division du travail argumentatif, puisqu'elle décharge chacun de la lourde tâche d'identifier tout seul et d'évaluer tout seul par des objections toutes les raisons pertinentes. Quatrièmement et finalement, elle peut permettre la sélection des meilleures raisons, puisque la mise à l'épreuve des différentes raisons et considérations avancées, leur confrontation, doit permettre d'éprouver leur validité. Alors ces quatre effets sont certainement ainsi décrits épistémiquement vertueux. Et ils accréditent le scénario ou la vision héroïque de la délibération, qui n'est pas sans fondement. Cette vision héroïque de la délibération qui est illustrée, par exemple, de manière fameuse, par le cas du jury de 12 hommes en colère, dans lequel un unique juré, seul au départ à douter de la culpabilité de l'accusé, finit par convaincre, en un peu moins de 2 heures, les 11 autres jurés d'acquitter cet accusé, en leur faisant voir que leur conviction n'est pas au-delà de tout doute raisonnable. Le problème, c'est qu'à ces vertus épistémiques possibles de la libération correspondent autant de vices tout aussi possibles et tout aussi corroborés par les études empiriques dont nous disposons. La mise en commun des ressources informationnelles peut faire circuler des informations fausses, voire mensongères, des fake news. La combinaison des capacités rationnelles peut faire émerger des opinions, des options inédites, mais qui ne sont pas adaptées, des raisons nouvelles, mais qui sont hors de propos, voire invalides. La division du travail délibératif peut avoir cet effet nocif de laisser dans l'ombre certaines considérations ou certaines objections, parce que personne ne les prend en charge, comptant sur les autres pour le faire. Et enfin, la sélection des raisons, élément le plus déterminant, peut retenir de mauvaises raisons et en éliminer de bonnes, par exemple parce qu'elle favorise, parce que les raisons les plus populaires, les plus saillantes, les plus visibles, les mieux représentées, sont favorisées. La dilution, donc, évoquée par Aristote, peut être nocive autant que bénéfique. Peut-être que le juré isolé de 12 hommes en colère était le seul à avoir tort. Alors, on tente parfois de sauver malgré tout la thèse de la supériorité nécessaire, systématique du peuple sur les experts, grâce à la délibération du peuple. On tente parfois de sauver cette thèse en invoquant la valeur de la diversité cognitive, la valeur qu'il y a pour la prise de décision à ce que le groupe contiennent le plus de points de vue et d'approches du problème considéré différentes possibles. C'est ce que proposent les économistes Scott Page et Lou Hong. Bernard Manet en a sans doute parlé la semaine dernière. Page et Hong entendent proposer à leur tour quelque chose comme un théorème selon lequel, d'après eux, la diversité prime sur la compétence. Sous certaines conditions, un groupe divers résoudrait mieux les problèmes pratiques qui lui sont soumis qu'un ensemble d'individus sélectionnés pour leurs compétences. Pourquoi ? Parce qu'en augmentant la taille du groupe, en ne se limitant pas au petit groupe des experts, mais en allant à la taille maximale, celle du groupe tout entier, en augmentant la taille du groupe, on augmenterait la diversité cognitive. Or, elle est vertueuse épistémiquement, parce qu'elle s'articule aux différents aspects que j'ai distingués tout à l'heure. Le problème, c'est que la corrélation, enfin l'un des problèmes, c'est que la corrélation entre diversité et taille n'est pas stricte. En augmentant la taille du groupe, en essayant d'instituer une délibération la plus vaste possible, la délibération du peuple, en augmentant la taille du groupe, on modifie aussi forcément la répartition des opinions en son sein. Et on ne le fait pas forcément dans le sens de la diversité des opinions sur la question considérée. On peut tout à fait, en passant d'un petit à un grand groupe, augmenter la domination, voire l'hégémonie, d'une opinion majoritaire. En fait, pour se désintéresser de cet aspect, pour ne pas s'occuper de la répartition des opinions au sein du groupe, il faut supposer ce que semblent faire les auteurs que j'ai cités, il faut supposer, ce qui à mon sens est fort peu plausible, que la plupart des raisons valides en matière politique sont susceptibles de provoquer un effet eureka. Lorsqu'elles sont formulées, même par une toute petite minorité, tous les autres peuvent se dire immédiatement « mais c'est bien sûr ». Si toutes les raisons politiques ne sont pas valides, ne sont pas susceptibles de produire ce type d'effet, on ne peut pas ignorer la question des rapports de force entre opinions, de la répartition initiale des opinions. Et ce que suggèrent les études en psychologie sociale notamment, dont nous disposons, à partir d'observations in situ ou de dispositifs expérimentaux, ce que suggèrent ces études, c'est que l'issue de la délibération est influencée de manière déterminante par la composition idéologique de départ, en même temps que par les conditions sociales ou les normes qui organisent la délibération. C'est notamment ce qu'indique le phénomène de la polarisation de groupe, sur lequel Cass Sunstein a travaillé, qui consiste en ce que, généralement, de façon tendancielle du moins, lorsqu'un groupe délibère, si une opinion dominante ou hégémonique existe au départ, si le groupe est homogène, relativement homogène idéologiquement, les opinions des participants se radicalisent. Elles évoluent toutes dans le sens de la direction qui leur était initialement commune. Phénomène qui s'explique de toutes sortes de manières, par le fait qu'il y a une surreprésentation des arguments qui vont dans le sens de l'opinion dominante, par le fait que les informations qui peuvent être fausses ou mal présentées qui sont proposées sont répercutées, c'est un principe de cascade informationnelle, par le fait qu'il y a un coût pour la réputation de chacun à formuler les contre-arguments ou les raisons minoritaires au sein d'un groupe. C'est ce qui explique ce phénomène familier selon lequel, lorsque vous discutez avec des gens qui sont d'accord avec vous, vous finissez généralement à la fin de la discussion par être encore plus d'accord les uns avec les autres que vous ne le pensiez de façon encore plus radicale. C'est ce qui explique que des discussions répétées au sein de groupes militants, quelle que soit la cause, activistes pacifistes, militantes féministes, défenseurs du droit au port d'armes à feu, opposants à l'avortement, des discussions répétées au sein de groupes militants favorisent la radicalisation sur la thématique en question des membres du groupe. On voit donc que la délibération collective peut être épistémiquement vertueuse ou vicieuse, bénéfique ou nocive, selon les normes qui l'organisent et surtout selon les conditions sous lesquelles elle se déroule. Le démocrate aurait donc tort de désespérer totalement de la compétence du peuple. La thèse d'une infériorité systématique du peuple vis-à-vis de son sous-groupe le plus compétent me paraît infondée. Mais la thèse inverse, souvent poussée par les démocrates, contre l'argument kelsénien, la thèse inverse est tout autant infondée. Le peuple peut sans doute, parfois, mieux juger que les experts. Rien n'assure que ce soit tout le temps, ou même le plus souvent, le cas. Il faut donc admettre, sous une forme révisée, la seconde prémisse. Faut-il en conclure, avec Kelsen, que seul ce doute suffit, dès lors qu'on refuse le relativisme, pour condamner la démocratie ? Troisième et dernier temps du raisonnement, qui porte sur la troisième prémisse. Faut-il confier le pouvoir de gouverner aux plus compétents ? Alors le raisonnement qui indexe l'autorité sur la compétence politique, qui érige l'expert en chef, selon la formulation d'Estlund, est dénoncé par David Estlund comme un sophisme. Reconnaître la compétence supérieure d'autrui en matière politique, n'obligerait pas à lui donner le pouvoir et à lui obéir. L'objection principale qu'il oppose est la suivante. Il fait intervenir une exigence morale, une exigence d'acceptabilité générale, dit-il, qui exprime l'idée, je cite, « que nul n'a d'autorité ou de pouvoir coercitif légitime sur un autre sans une justification qui pourrait être accepté par tous les points de vue qualifiés. C'est-à-dire par tous les points de vue, sauf ceux qu'il faut nécessairement sortir du raisonnement moral, le point de vue du fou, le point de vue du vicieux, du pervers. Alors cette exigence est d'ailleurs contractualiste, très clairement, une exigence d'acceptation unanime en droit, d'acceptabilité unanime. Mais son contenu reste en fait totalement indéterminé, parce que Esloun refuse d'asseoir son raisonnement sur une théorie morale spécifique et explicite. Il soumet néanmoins à ce test d'acceptabilité générale l'épistocratie et la démocratie. L'épistocratie qu'il identifie à des dispositifs comme le vote plural de Mill, la démocratie qu'il identifie au suffrage universel égalitaire. Il est manifeste, à en croire Esloun, que l'épistocratie ne peut pas être acceptée par tous les points de vue moralement qualifiés, alors que la démocratie peut l'être. En effet, dit-il, l'épistocratie doit établir des comparaisons blessantes, indues, entre les individus, les plus compétents et les moins compétents, pour fonder l'autorité des uns sur les autres. En démocratie, ce n'est pas le cas. Bien sûr, chaque décision majoritaire oblige les minoritaires. Mais il n'y a pas de minorité stable, fixe, qui soit formellement assujettie à une majorité stable, fixe, au nom de différences supposées entre membres de la majorité et membres de la minorité. Bien que la décision majoritaire soit dotée d'autorité, aucun groupe majoritaire ne se voit doté d'une autorité qui lui serait la sienne. A l'inverse, écrit Esloun, dans un système de suffrage inégalitaire, donc dans le vote plural, dans l'épistocratie, certains individus sont formellement et définitivement condamnés à être assujettis au gouvernement des autres. Il y a là un élément additionnel propre à l'épistocratie, assujettissement des uns aux autres, qui ne peut pas passer avec succès le test de l'acceptabilité générale. Tous les points de vue qualifiés ne peuvent pas accepter un tel arrangement. Alors ce raisonnement est séduisant en un sens, mais il me paraît très peu concluant. Esloun, bien sûr, affirme, et il peut affirmer, qu'il n'y a pas là juste une pétition de principe. Parce que cette idée générale, l'autorité politique dépend de l'acceptation générale par tous les points de vue qualifiés. Tous les points de vue moralement qualifiés doivent pouvoir accepter cette organisation de l'autorité et du pouvoir. Ce principe-là ne présuppose pas la démocratie, ce qui est vrai. Même si ce type d'exigence contractualiste a des affinités, malgré tout, historiques et analytiques, avec l'idée démocratique moderne. Le problème, il me semble, est ailleurs, toutefois. Faute de nous dire quels points de vue sont qualifiés, faute de nous dire qui intervient dans ce test d'acceptabilité générale, Esloun ne nous donne aucun moyen de vérifier ses affirmations, d'évaluer si l'épistocratie ou la démocratie seraient acceptées ou rejetées. Il est difficile de comprendre, en réalité, pourquoi l'autorité des décisions majoritaires serait acceptable par tous les points de vue qualifiés. Qu'en est-il du point de vue du fanatique qui, sans être fou, sans être vicieux, refuse de laisser la vérité être sacrifiée à la vie majoritaire? Qu'en est-il du dogmatique qui, sans être fou et sans être vicieux, voudrait voir le pouvoir de gouverner indexé à la compétence, dogmatique qui est peut-être prêt à renoncer au pouvoir pour lui-même afin de voir l'autorité politique confiée à ceux qui, selon lui, ont l'accès le plus sûr à la vérité? En fait, si on doit rejeter ces deux points de vue qui condamnent la démocratie, si le test d'acceptabilité générale exclut ces deux points de vue, si ces points de vue ne sont pas qualifiés, ne sont pas pertinents, ça veut dire que ce test, implicitement, présuppose déjà la priorité de l'égalité sur la vérité. De toute façon, de telles exclusions sont injustifiables en l'absence d'une théorie morale explicite qui nous dise ce qu'est ce test de l'acceptabilité générale. Il est toutefois, et je laisse Esloun de côté, désormais, il est toutefois une considération beaucoup plus simple, tout à fait triviale à vrai dire, qui explique à mon sens que l'on ne puisse pas et que l'on ne doive pas confier le pouvoir de gouverner aux experts. Nous ne savons simplement pas identifier de façon certaine qui sont les experts, qui sont les citoyens les plus compétents politiquement. Les questions politiques, en effet, font intervenir des considérations et donc des compétences extrêmement variées, relevant de différentes formes de savoir factuel, prudentiel, normatif aussi, de telle sorte qu'on ne peut pas supposer qu'un groupe défini à l'aide d'un seul critère ou d'un seul indicateur coïncide avec celui des plus compétents. La complexité de ces questions, dit autrement, fait que différents indicateurs sont nécessaires pour identifier le groupe des plus compétents. Mais en outre, la variété des questions politiques fait que pour différentes familles de questions, le groupe des plus compétents variera, peut-être de manière extrêmement fréquente. L'identification des membres du groupe est donc une tâche qui est tout aussi délicate que la résolution des questions politiques qu'on voudrait leur déléguer ou leur assigner. Cette multiplicité des sources de la compétence politique, cette dispersion des formes de la connaissance politique, était déjà pointée par John Dewey, qui voyait là, je le cite, « l'obstacle insurmontable jalonnant le chemin de n'importe quelle autorité aristocratique. Il est impossible pour un groupe d'acquérir l'ensemble des connaissances, et encore plus d'en avoir le monopole, devant être utilisé pour gouverner. » Alors on pourrait objecter, pour défendre Mill, on pourrait objecter que certes, un critère unique, comme le niveau d'éducation ou le niveau d'expérience, est très approximatif. Mais ça ne l'invalide pas. Après tout, toute chose égale par ailleurs, il est plausible que l'éducation favorise le jugement politique. Elle augmente, elle élargit notre savoir factuel, elle affine nos modes de raisonnement. Il ne suffit pas toutefois de raisonner toute chose égale par ailleurs. Car tout facteur plausible de compétence peut être corrélé à des facteurs d'incompétence inaperçus. Les plus éduqués peuvent, comme le note d'ailleurs Eslund, présenter de manière disproportionnée des traits qui sont problématiques pour le jugement politique. Il suffit d'imaginer que, parce qu'ils appartiennent au même genre, à la même classe sociale, parce qu'ils sont passés par les mêmes institutions éducatives, parce qu'ils relèvent du même milieu professionnel, les plus éduqués manifestent une tendance commune, par exemple, à certains biais. On peut penser à des biais moralement condamnables, le racisme, le sexisme, mais on peut aussi penser à des biais beaucoup plus triviaux. Le fait d'ignorer, par exemple, tout un ensemble d'expériences pratiques qui sont communes dans d'autres régions de la société et qui sont parfois pertinentes pour bien choisir. Mill en était totalement conscient, qui affirmait que les classes possédantes au pouvoir, du côté des patrons, aussi bienveillantes, disait-il, puisse-t-on les imaginer, seraient toujours incapables de considérer la question de la grève avec les yeux des travailleurs. De même que les hommes ne pourraient jamais le faire sur d'autres questions du point de vue des femmes. Alors, si on admet cette réponse à l'objection, la difficulté d'identifier les plus compétents doit être prise au sérieux. De même qu'il ne suffit pas d'admettre qu'il y a des vérités politiques pour savoir ce qui est vrai politiquement, il ne suffit pas d'admettre qu'il y a des compétences politiques inégales pour savoir avec certitude qui est compétent. Cette incertitude suffit-elle toutefois à rejeter le raisonnement épistocratique, le raisonnement que Kelsen lui-même cherche à éviter? Les indices de compétences privilégiés par Mill, par exemple, sont peu fiables, mais est-ce que dire cela suffit à refuser toute forme de procédure inégalitaire dans une visée épistocratique? Il faut essayer de tirer les conséquences de cette incertitude. Ce qui justifie, à mon sens, et je vais essayer de finir sur ce point, que l'on refuse de confier aux experts politiques le pouvoir de gouverner, ce n'est pas le dogmatisme, bien sûr, qui invite à leur confier ce pouvoir, mais ce n'est pas non plus le relativisme qui nous laisse libres de tirer n'importe quelle conséquence pratique de ces prémices. C'est plutôt le faillibilisme qui va avec le souci de la vérité. Alors, bien sûr, invoquer la faillibilité du jugement politique peut sembler nous conduire seulement à reconduire, sous une forme un peu reformulée, l'opposition entre scepticisme et dogmatisme, relativisme et absolutisme. Que change le déplacement du relativisme au faillibilisme, du scepticisme au faillibilisme, si la seule conséquence ou la seule visée, c'est de maintenir le refus de procédures inégalitaires? Que change la réhabilitation du souci de la vérité, pour le dire autrement, si la vérité n'est pas connaissable avec certitude? Alors, il me semble que cela change en profondeur notre compréhension du régime démocratique, notre évaluation des procédures démocratiques et notre appréciation du paradoxe qui se dissout. Simplement parce que le faillibilisme, de manière tout à fait triviale, je crois, a fort peu à voir avec le scepticisme. Alors, cette différence est, j'imagine, familière et banale pour l'épistémologue. J'ai un peu honte de la formuler en présence de l'auteur du doute en question. Mais elle passe souvent inaperçue du philosophe politique, ou du moins, il n'en tire pas, je crois, pleinement les conséquences. Reconnaître la faillibilité du jugement politique, et plus largement de la raison pratique, revient en effet, tout en admettant la valeur inégale des jugements politiques portés par les individus, tout en reconnaissant qu'ils sont susceptibles de degrés de certitude variables, cela revient simplement à accepter qu'une certitude absolue, qui ne laisserait aucune place à la possibilité de l'erreur, est inaccessible. L'erreur de Kelsen, du sceptique, de ce point de vue-là, est simplement d'appliquer au jugement politique un critère qui ne l'aurait pas adapté. Je cite à nouveau Kelsen, phrase que j'avais citée tout à l'heure, « l'exigence d'une connaissance scientifique rationnelle qui soit absolue et ne laisse pas la possibilité d'un jugement de valeur inverse. » Exclusion du faillibilisme, en réalité. Il me semble que les jugements de valeur, pour autant, n'en sont pas mis sur le même plan. Le faillibiliste doit simplement reconnaître que l'on doit, dans la procédure politique, c'est la thèse que je vais essayer de défendre à présent, traiter également les opinions, sans supposer qu'elles ont une valeur égale, simplement parce qu'aucune opinion n'est suffisamment certaine, absolument certaine, pour justifier que l'on étouffe ou que l'on défavorise les autres. On peut partir, ce qui pour le coup est en un sens trivial paradoxal, du faillibilisme de Mill, tel qu'il est formulé dans sa célèbre défense de la liberté de pensée et de discussion. Mill nous dit ceci, « La raison humaine est limitée de telle sorte que nul ne peut jamais être entièrement certain d'avoir raison sur les questions, en particulier pratiques. Même l'opinion majoritaire ou unanime peut être erronée, ce qui est tragique, comme le montre pour Mill l'exemple, déjà, de la mort de Jésus, l'exemple de la mise à mort de Socrate aussi. Il est impossible de jamais abolir la possibilité de l'erreur, mais cela n'ôte pas leur valeur aux certitudes relatives ou partielles que nous avons. Cela ne conduit pas à attribuer la même valeur à toutes les opinions. Car les raisons qui sont constituées des preuves définitives nous font pencher d'un côté ou de l'autre, ont un poids différencié qui ne peut pas être négligé. » En fait, la seule véritable conséquence du faillibilisme de ce point de vue consiste en ceci. Nos certitudes, aussi fortes soient-elles, ne nous confèrent pas l'autorité requise pour interdire à autrui la possibilité de contester nos opinions. Ce serait, dit Mill, je le cite, « s'arroger l'infaillibilité ». Les certitudes relatives qui sont accessibles constituent un fondement suffisant pour l'action, sauf pour l'action qui, en limitant l'accès à l'expression, met en péril le moyen par lequel nous pouvons corriger les erreurs, toujours possibles, ou au moins les identifier. Ce raisonnement, Mill l'applique à la liberté d'expression. Mais il me semble, contre Mill cette fois, qu'il doit aussi être transposé à la question de la participation politique, et en particulier à la question du suffrage. Mes certitudes, aussi fortes soient-elles, ne me confèrent pas l'autorité requise pour empêcher autrui de contrer mon influence par la sienne dans la prise de décision, d'opposer son vote au mien, car ce serait là m'arroger l'infaillibilité. Priver autrui du suffrage, ou même, comme dans le vote plural, affaiblir simplement l'influence qu'il peut avoir comparée à la mienne, au motif qu'il est, selon moi, dans l'erreur, c'est compromettre le mécanisme par lequel son opinion peut contribuer à corriger la mienne, s'il se trouve qu'elle mérite en réalité d'être corrigée. Alors il y a là un pari, bien sûr, parce que il n'existe pas, et Mill ne prétend pas qu'il existe, de garantie. Il n'y a pas de garantie que le vote aura, si c'est nécessaire, cet effet correcteur. Comme il n'y a pas de garantie que la libre discussion permise par la liberté d'expression aura, si c'est nécessaire, cet effet correcteur. Simplement, nous n'avons pas d'autres mécanismes d'évaluation, de contestation et de révision de nos opinions politiques. Le seul que nous ayons, c'est leur rencontre non entravée. Le faillibilisme millien, donc, si j'ai raison du moins, oblige à rejeter le vote plural proposé par Mill. Je finirai en reconnaissant la complexité de cette position pourtant devenue très familière. Cette complexité peut être mise en valeur en mentionnant deux objections qui, je pense, ne remettent pas fondamentalement en cause le raisonnement. Première objection. Comme je viens de le reconnaître en parlant de Paris, la démocratie présuppose bien un choix. Le choix, malgré la certitude présente que je peux ressentir, de me donner les moyens de pouvoir changer d'opinion, liberté d'expression, le choix aussi de courir le risque de voir mon opinion vaincue par d'autres, dans l'espoir que ce mécanisme général puisse tendre à corriger nos erreurs. Le fanatique, quant à lui, fait le choix qui est, ou le dogmatique plus généralement, quant à lui, fait le choix qui est exactement inverse. Face à la certitude présente qu'il ressent, il choisit de se protéger, de se prémunir contre la possibilité d'un changement d'opinion à l'avenir. Donc il fait taire les opinions contraires. Il choisit de se prémunir contre le risque de voir l'opinion qu'il tient pour vraie vaincue dans les urnes. Il refuse les procédures démocratiques. On peut considérer, c'est ce que suggère Akhil Bilgrami, c'est la première objection, que le choix de l'un n'est pas plus rationnel que celui de l'autre. Ils ont l'un et l'autre, en tout cas, le mérite de la cohérence. Ils procéderaient de deux paris en situation d'incertitude. L'un parie que les chances de me rapprocher de la vérité en jouant le jeu de la libre expression et de la démocratie sont plus grandes qu'en renonçant à ce jeu. L'autre parie, à l'inverse, que les chances de s'éloigner de la vérité l'emportent si l'on fait le choix de la liberté d'expression et de la démocratie. Mais mettre sur le même plan ces deux paris est de toute évidence trompeur. Ils peuvent être dits également cohérents, mais pas également rationnels. Car l'un exige précisément de mettre un terme à l'exercice de la raison individuelle, ou de le contenir, de crainte que cette raison ne se laisse convaincre par des considérations trompeuses. Tandis que l'autre exige plutôt que les conditions requises par l'exercice continu de la raison individuelle soient possibles. Le pari démocratique, donc, s'il en est un, n'est pas sans fondement ou justification. Il s'enracine, très simplement, dans la confiance, dans la raison individuelle, ou pour le dire autrement, mais je crois que l'un va avec l'autre, dans la confiance dans l'égale capacité de jugement de chacun. Il faut partir de l'égalité des aptitudes à juger, ce qui n'est pas la même chose, évidemment, qu'une supposée égalité des compétences actualisées, et encore moins qu'une supposée égalité des opinions professées ou des jugements arrêtés. On peut toutefois, c'est la deuxième objection, juger que ce pari du démocrate est incohérent. Si, comme le suggère encore Akhil Bilgrami, l'idée même d'une quête ou d'une enquête tournée vers la vérité perd tout sens dès lors qu'on admet qu'il n'est jamais possible d'être entièrement certain d'avoir raison, d'avoir progressé, d'être dans le vrai. Selon Bilgrami, l'idée même d'un progrès qui se réaliserait sans jamais pouvoir s'assurer de sa progression est contradictoire. Il me semble qu'on doit opposer à cette objection cette simple observation que la poursuite de fins que nous désirons sans jamais pouvoir être absolument certain de les avoir réalisées est une dimension constitutive, peut-être tragique, de la vie humaine. Nous poursuivons communément le bonheur, la justice, le pouvoir, la richesse, la reconnaissance ou l'amour, sans souvent pouvoir être absolument certain de les avoir trouvés. Cela ne nous conduit pas et ne devrait pas nous conduire à refuser toute valeur au jugement faillible que nous portons à leurs propos, ni à nier qu'il importe pour nous d'avoir les moyens de les poursuivre de notre mieux. De la même manière, la politique démocratique, se reposant sur les vertus de l'agrégation et de la délibération, mais se reposant aussi sur des institutions qui permettent l'évaluation, la contestation, la révision continue des choix collectifs. De la même manière, cette politique démocratique, s'appuyant sur toutes ses ressources, constitue une quête, celle du bien du peuple, ou du bien commun, ou de celle des visées substantielles que l'on retiendra parmi celles que j'ai déjà évoquées. Cette quête, bien sûr, nous fait rencontrer, à défaut de certitude absolue, des jugements qui sont plus ou moins sûrs, qui sont plus ou moins confirmés par l'expérience, et dont il serait impossible et injustifié de ne pas tenir compte. Pour finir sur cette partie, Il n'y a aucune incohérence à dire que la faillibilité de nos jugements nous impose certaines contraintes dans la visée de la vérité, qu'elle nous interdit de sacrifier l'égalité procédurale dans notre effort pour prendre de bonnes décisions. Parce qu'il n'y a pas de certitude absolue dans l'ordre politique, parce qu'aucun accès absolument sûr au degré de compétence individuelle n'est disponible, les procédures épistémiques inégalitaires, telles le vote plural, ne sont pas justifiables. C'est du moins ce que doit conclure celui qui fait le pari de la raison. En conclusion, la démocratie, il me semble, n'est pas un idéal paradoxal, à cet égard du moins, tout simplement parce qu'il n'est pas vrai qu'elle exclut la vérité qu'elle présuppose. La reconnaissance de la faillibilité de nos jugements politiques donne son sens à ce régime. Elle justifie qu'on traite également les opinions individuelles, même si elles n'ont pas une valeur égale. Elle justifie qu'on ne renonce pas à privilégier des procédures qui soient à la fois égalitaires et épistémiquement vertueuses. Cela fait de la démocratie, il est vrai, un idéal particulièrement exigeant, éminemment exigeant. Parce qu'elle exige des citoyens égaux un effort individuel et collectif pour départager les opinions, pour conduire ce que Mill appelle la lutte violente entre les parties de la vérité, alors même que nul ne peut se prévaloir de ses certitudes pour exiger le droit de trancher pour les autres. Je vous remercie.